France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Vincent Segal et je suis né à Reims en Champagne le 27 avril 67 et je suis violoncelliste.
Bonjour Vincent Segal.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, ici, dans le ventre de Paris. Alors vous êtes l'un des plus inclassables musiciens de notre génération, avec l'improvisation chevillée au corps, de raga en rumba, de jungle en samba, on a l'impression que rien ne vous résiste, de la pop élégiaque aussi, du jazz expérimental, du bikutsi, des musiques de nuit mandingue, quelques suites de Bach, de la création contemporaine, bref. Voilà peut-être une aventure pas banale quand on choisit comme instrument le violoncelle. Tout au long de cet entretien, on va tenter de comprendre d'où vous vient cette curiosité. Vous êtes une sorte d'ethnomusicien dans l'âme. Impossible, semble-t-il, de ne pas aller voir toujours plus loin si l'ailleurs y est. Alors je me demandais, Vincent Segal, si jamais vous diriez, comme vous a semblé un peu anthropophage comme ça de la musique, si la musique vous affame.
Elle rythme mon quotidien. C'est-à-dire depuis tout petit, c'est ma maison, en fait, les sons. Mais aussi l'ambiance sonore, je suis assez sensible à ça aussi, finalement. Par exemple, j'aime pas écouter la musique dans les bus. Quand je prends le bus, j'adore prendre le bus, à Paris par exemple. Le 96, c'est une de mes lignes favorites, c'était aussi celle qu'aimait bien Pérec. Et en fait, j'adore juste écouter. C'est-à-dire les freinages, les conversations, téléphoniques ou pas. Mes parents écoutaient beaucoup de musique à la maison, beaucoup de radio. On n'avait pas la télé, donc c'était vraiment que la musique. Et assez tristement, il n'y avait pas vraiment de... Ma grand-mère jouait du piano, il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de musique jouée par des musiciens. C'était lié beaucoup à l'enregistrement. Donc j'ai grandi avec l'enregistrement, quoi. L'archivage sonore. Mais mon père était fou de jazz et de classique, et ma mère plus de classique, et... mais ouverte sur le jazz aussi, mais elle écoutait beaucoup plus de choses variées.
Et cette enfance, elle se passe à Reims, alors ?
Oui. Je suis né à Reims de parents immigrés, enfin qui sont nés à Reims par hasard. Une mère qui est née à Oran, donc qui est de famille séfarade oranaise, et qui avait son père qui était champenois, mais pilote dans l'armée. Donc c'est comme ça qu'il a épousé ma grand-mère maternelle. Et du côté de mon père, son père était juif russe, de Biélorussie, là où il y a tous les problèmes en ce moment. De Borisov, pas loin de Segal, c'est Chagall. C'est les mêmes familles, ils se connaissaient, c'est les mêmes origines. Qui a épousé une Ardennaise. Donc j'ai une partie de ma famille qui est quand même rémoise, enfin, ou de la région, mais l'autre partie qui est émigrée, voilà.
Vos parents sont nés avant la guerre, pendant la guerre ?
Ils sont nés pendant la guerre. Mon père est né en 42, donc dans des conditions assez précaires, difficiles. Caché, quoi. Il est né dans le sud-ouest, je crois. Et ma mère est née à Oran, donc plus facilement, en 44. Elle n'a aucun souvenir de l'Algérie, puisqu'elle est venue en France, puisque mon grand-père était pilote. Donc lui finissait la guerre, mais elle est rentrée... Elle était à Verzy, dans un petit village de Champagne, où on fait vraiment la vigne. C'est vraiment le berceau du Champagne, Verzy.
Et de ces racines biélorusses et oranaises, est-ce que, évidemment, vous l'avez par vos parents et leur histoire, et vos grands-parents, mais est-ce que c'est aussi des voyages que vous auriez fait ensemble ou pas du tout
Pas du tout. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que même de culture, ils avaient une culture très universelle, très... Il n'y avait pas une différence. Enfin, si, il y avait quand même une différence entre ce qu'ils écoutaient, parce qu'ils étaient assez pointus, mais c'était ce qu'écoutaient les gens de la classe bourgeoise intellectuelle de Reims à l'époque, un peu plus cultivée. Mais par contre, il n'y avait pas d'héritage séfarade ou ashkénaze, parce que la guerre était un traumatisme, donc ça a gommé tout ça. Mais par contre, mon frère, ma sœur et moi, on a toujours été sensibles à énormément de musique, sans savoir pourquoi. Et je pense que c'est lié, c'est-à-dire... J'ai toujours été sensible à la musique modale. J'ai toujours eu un faible pour les développements mélodiques très 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 longs, même en Inde, enfin dans la musique du raga et tout. Et ça vient vraiment de, je pense, de mon héritage nord-africain, ça c'est sûr. Je le ressens quand je joue en Turquie avec des copains. Et pourtant, j'ai jamais été bercé. Souvent les gens me demandent d'ailleurs. Il y a pas longtemps là, j'ai joué avec un oudiste palestinien, il me dit "Mais c'est dingue, il me dit t'aimes bien jouer." Je dis "Ouais, je suis hyper sensible à ça, mais j'ai jamais étudié." Sauf avec vous, en jouant par défaut avec tous mes amis musiciens, mais je l'ai pas. Enfin, c'est pas un truc de famille. Et du côté de mon père, par contre, si j'étais sensible, mon grand-père, mon père, il y avait quand même un truc sur le violon ashkénaze, quoi. Vraiment. C'est-à-dire façon de jouer de gens comme Milstein, comme Oistrakh, mais aussi des gens moins connus comme Misha Elman ou comme. Enfin, cette façon de jouer, quoi. Même la façon de Kreisler. Je me souviens d'un concerto de Beethoven par Kreisler. C'est un univers particulier quand même. Et ça, j'étais sensible à ça, ouais.
Ouais, dans le son, dans l'attaque aussi.
Ouais, par exemple, j'adore Natalia Gutman, la violoncelliste. Je trouve qu'elle n'est pas assez mise en valeur.
C'est vrai.
Par exemple, même quand on écoute dans Messian, il y a une version où elle joue Louange à l'éternité de Jésus au violoncelle, mais pourtant, elle ne connaissait pas Messian, je pense qu'elle ne l'a jamais rencontré. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'elle l'a rencontré. En tout cas, elle joue ça, mais c'est hallucinant. Et alors, il y a un truc, c'est quand elle joue Souvenir de Florence, le sextuor, où avec le quatuor Borodine, il y a une version où c'est elle qui joue. Je me demande si elle ne jouait pas avec son mari, Oleg Kagan. C'est gigantesque. Enfin, c'est un violoncelle explosif, fin, chanté, mais ça a l'air sans effort, quoi. Mes amis qui sont non-musiciens, j'essaie toujours de leur parler de violoncellistes qu'ils ne connaissent pas, comme Shafran, Daniel Shafran.
Bah, sublime.
Oui, et c'est pareil, dans les années 80, quand on était étudiant, personne ne nous parlait de Shafran. On parlait de Rostro, qui était génial, enfin que j'adore. J'adore Rostropovitch, mais j'adore aussi Shafran, et Shafran, c'est Saint-Pétersbourg. Et puis si on parle d'enfance, il y a quelque chose de fort avec Shafran, c'est que son père était violoncelliste. Et Daniel Shafran raconte, j'ai son livre, il demande à son père, il dit « Je voudrais faire du violoncelle ». Le lendemain, son père lui ramène un petit violoncelle. Il lui dit « Allez, on s'y met ». Et Danny Shafran lui dit « Non, mais là, je suis en train de jouer avec mes joueurs. Là. On fera ça demain ». Et son père lui a dit « C'est maintenant ou jamais ». Et j'aime bien ça. Ça, c'est vraiment russe, quoi.
Et vous, alors, quand vous étiez enfant, vous êtes l'aîné de la fratrie, c'est
oui.
ça ? Oui. Donc, un frère oui. et une sœur.
Deux ans de différence entre chaque, oui.
Et eux, est-ce qu'ils ont pratiqué ? C'est vous qui avez donné, du coup, le premier coup, si je puis dire, de musique vivante à la maison ?
Oui, mais on était toujours baignés dans la musique. Je pense que la différence qu'il y a eu, malheureusement, entre ma sœur, mon frère et moi, c'est les professeurs au conservatoire. Le rapport qu'on a eu à l'éducation musicale, il est parti vraiment de l'école maternelle. L'école maternelle, il y avait une dame qui est venue quand j'étais en dernière année de maternelle et qui regardait les enfants et qui regardait s'ils étaient aptes à la musique. Et en fait, à l'époque, je me souviens, mon premier instrument, j'avais fabriqué avec des bics. J'avais fait une flûte de pan et je mettais de la pâte à modeler dedans et ça changeait les hauteurs de son. Et ça faisait un truc géant, mais ça énervait beaucoup ma prof. Mais moi, je croyais qu'elle aimait, mais en fait, elle m'a envoyé voir la directrice en disant « il arrête pas avec sa flûte, il perturbe la classe ». Et moi, j'étais hyper fier, j'étais avec ma flûte. Et donc, quand il y a la dame qui est venue en disant « voilà, on fait des classes à horaires aménagés, est-ce que ça intéresse les enfants ?» Et ils ont dit « ouais, il a l'air bien intéressé ». Donc, ils ont demandé à mes parents si je voulais rentrer en classe à horaires aménagés, c'est-à-dire des classes où ils appellent ça les CHAM maintenant, mais nous, on disait pas ça, on disait… Je me souviens parce que l'école était rue des orphelins, donc je me demandais « t'es où à l'école ?» Je disais « aux orphelins ». Donc c'est ouais, c'est triste. Maintenant, ils l'ont appelé Guillaume de Machaut. Et vous allez rigoler, mais c'est seulement depuis 2 ou 3 ans que je suis super fier de dire que j'ai étudié à l'école Guillaume de Machaut, parce qu'avant, j'écoutais pas beaucoup Guillaume de Machaut. Et en fait, j'ai écouté 2 versions de la messe de Notre-Dame et ça m'a pétrifié. Et j'étais là « waouh, enfin un Rémois intéressant en musique ». Et à la version de Noël Achoté, où il joue guitare seul. Il a fait plusieurs voix, je pense qu'il a dû faire 4 guitares pour faire chaque voix. C'est une version qui est extraordinaire parce qu'on a l'impression d'entendre comme du Radiohead, mais encore plus intelligent, juste très sobre. Et en même temps, on se rend compte que c'est Guillaume de Machaut et on se dit, ouais, ça, c'est magnifique. Et j'aime la version de l'ensemble Binchois.
Gilles Binchois.
Ouais, c'est ma version préférée. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc d'élégance. Après, je suis pas un spécialiste, mais en fait, je suis très sensible à la rythmique.
Donc vous y rentrez, Vincent Segal, tout petit, quoi, c'est-à-dire ouais. 6 ans, quoi.
J'aimais bien lire et écrire, donc j'ai sauté le CP. Et c'est un regret un peu... Enfin, c'est pas un regret, parce que j'ai gagné du temps, c'est pas mal, finalement. Mais j'ai jamais eu une très belle écriture.
Une graphie.
Voilà, et en musique aussi. En musique, c'est une catastrophe. Tous les jours, je suis là, mais comment j'ai pu passer... Mais on ne le faisait pas faire à l'époque, parce que maintenant, quand on voit les musiciens du 19e, même amateurs... Ils écrivaient la musique, mais c'est comme les poésies ou les textes. On leur demandait de copier des poésies, mais c'est magnifique. Mmh. Et les déliés et tout, et les notes. Moi, j'ai des manuscrits de jeunes violoncellistes. Et j'ai honte de mon écriture. J'adore écrire la musique, je transcris tout, j'ai des pleins de carnets et tout, mais c'est illisible. Bon, après, quand je suis rentré au conservatoire, en fait, la première étape, c'était... On avait 1 an de solfège. 90% des gens dans mon quartier, si vous les arrêtez, vous leur dites, vous aimiez les cours de solfège, ils détestaient. Et moi, j'ai adoré mes cours de solfège, depuis toujours. Avec n'importe quel prof. Même des profs horribles, acariâtres, ou... Quand c'était des profs horribles, j'essayais de les mettre en défaut, c'était génial. C'était tellement drôle, mes copains me disaient, vas-y, vas-y, Vincent. Alors je disais, mais là, le cartolet est pas en place, madame. Mes copains étaient là, ouais, vas-y. C'était drôle. Et par contre, j'ai le souvenir, par exemple, d'avoir découvert vraiment la force de Charlie Parker, pas un prof de solfège, à la fin d'année, nous a ramené un... On a travaillé Billy's Barnes, je me souviens. Et là, j'étais là. Parce que ça, c'était le territoire de mon père, mais c'était pas un territoire...
Le jazz.
Oui, mais c'était pas un territoire d'études. Et là, je me suis dit, waouh, on peut étudier Charlie Parker à l'école. Je crois qu'il s'appelait Brochet, ce prof. Je me souviens de sa barbe, maigre, très doux, mais... S'il est encore vivant, je peux le remercier parce que vraiment, c'était ce truc de possibilité d'associer le jazz et le conservatoire. À l'époque, il n'y avait aucun cours de jazz dans aucun conservatoire. C'est François Janot qui a créé la première classe au CNSM à Paris, bien après mais à la fin de mes études, malheureusement. Mais avant, c'était mission impossible.
Et ce qui vous fascinait dans le solfège, ce que vous aimiez tant, Vincent Segal, c'était quoi? C'était justement la découverte du rythme, la découverte des clés, les possibilités, l'harmonie. Qu'est-ce qui a fait que, envers et contre tout, malgré des profs plus ou moins séduisants, vous aviez cet appétit?
Je pense que, en fait, il faut voir le solfège comme un langage informatique presque. C'est-à-dire, tout se passe au niveau oral pour moi dans la musique. L'écriture, c'est un moyen mnémotechnique de comprendre ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe autour de soi. Par exemple, s'il y a une polyphonie, ben, c'est un moyen de se dire, voilà, je chantais ça et l'autre. Mais on pourrait le faire sans partition. Ça serait compliqué, mais on pourrait le faire. Il y a 90% des musiques qui sont jouées dans le monde, je pense qu'au départ, elles avaient vraiment une base orale totale. Et même, c'était mal vu. Il y avait des gens qui disaient que c'était mal vu de lire la musique. Ça enlevait les... Par exemple, quand on parle avec Balaké, Balaké ne veut pas lire la musique parce que pour lui, sa tradition, c'est la tradition orale, parce qu'il dit qu'il faut un imaginaire, il faut une écoute, il faut... Et je suis très sensible à ce discours. C'est-à-dire que j'essaye le plus possible de jouer sans partition. En musique, en fait, quand on écrit, tout de suite, on peut dire à une personne, bah, regarde ce que j'ai écrit, et elle va essayer de s'approcher. Sauf que c'est flou. Une croche pointée double, on peut faire tac, tic, tac, on peut faire ta, en ta, on peut faire ta, ta, on peut la pointer un peu, enfin, mais c'est drôle d'ailleurs, parce que suivant les différentes personnes, elles vont pas être jouées et senties de la même manière. Un batteur, il va faire tout, il va penser tout bien avec des unités, alors qu'un musicien classique va penser tam, papam, pam. C'est donc, c'est drôle, et ils lisent la même chose.
Entretien de Vincent Segal.
Moi, j'attendais l'après-midi pour aller au conservatoire. Le matin, l'école m'ennuyait pas, mais c'était pas... Proportionnellement, j'avais plus de professeurs intéressants au conservatoire qu'à l'école. J'ai eu des profs géniaux à l'école, mais au conservatoire, globalement, j'ai eu de la chance. Mais je pense que j'ai choisi. Parce qu'en fait, pourquoi mon frère et ma sœur ont vite arrêté la musique? C'est parce qu'ils ont choisi l'instrument.
Ouais, plus que le professeur.
Voilà, moi j'ai choisi le professeur. J'en ai même pas parlé vraiment à mes parents. Mes parents aimaient bien le violoncelle, ça c'est sûr. Mais j'ai demandé à mes parents qui est le prof le plus sympa. Ils m'ont dit, ouais, va chez Pierre Pénassou. Il fait des fêtes à la fin de l'année. Il y a tout le temps des bonbons, on rigole bien. Il est tout rond. C'est un nounours. Donc je me souviens, il y avait Jacques Murgier qui était un merveilleux violoniste, qui était directeur du conservatoire. Et c'était vraiment le directeur... Il y a plus ça. Un directeur qui reste 20 ans ou 25 ans en poste au même endroit. Maintenant, les directeurs, tous les ans, ils changent de poste. Enfin, et le bureau, c'était comme le bureau du directeur du Châtelet, quoi. C'est-à-dire qu'on rentrait, il y avait des tableaux, une musique de chant, c'était de la moquette, verre, bouteille par terre. Le bureau était un bureau du 19e siècle magnifique. Il écrivait avec son stylo, avec un encrier presque. Enfin, c'était... Et très sévère, on avait les genoux qui tremblaient quand on rentrait dans son bureau. Et de temps en temps, il faisait travailler la musique de chambre. On parlait de musique avec le directeur, c'était pas qu'un directeur administratif, même s'il gérait bien. Donc ça, c'était l'ambiance très sévère. Et Monsieur Pénassou, c'était le contraire, c'est-à-dire qu'on rentrait dans la classe, c'était un nuage de fumée. Il fumait des Dunhill ou des Lambert et Butler en permanence. Et on avait 6 ans. Ma mère savait que j'avais eu cours de violoncelle quand je rentrais et que je sentais le tabac à fond comme si j'avais été au Blue Note
toute la nuit.
Voilà. Et j'avais même peur quand j'étais petit parce que ils fumaient en jouant. Donc comme mes parents étaient non-fumeurs, j'étais persuadé que la cendre allait enflammer mon violoncelle quand elle tombait. Parce que souvent, elle tombait sur le violoncelle. J'étais là, mais ça va faire une explosion. Enfin, moi, je voyais une cigarette comme du feu. Donc je me disais, comme dans Lucky Luke, ça va faire de la dynamite, mon violoncelle. Et donc à chaque fois, je plongeais. Dès que la cendre tombait, j'étais à l'enlever de mon violoncelle. J'avais qu'une hantise. Surtout qu'il avait cassé mon archet. Au premier cours, il m'a cassé mon archet.
Ah, ça commençait moyennement bien.
Voilà. C'est pour ça que j'adore jouer les pids. Parce qu'en fait, il était très agile au violoncelle, mais un peu très élégant. Mais vraiment rond.
C'était un super violoncelliste, hein. C'était le quatuor parrainin, ouais, c'était si le domaine musical et tout ça. Hein.
Moi, il y a deux versions pour bien entendre. Il y a quatre choses. Si j'avais quatre choses à citer de Pierre Pénassaud, j'ai reçu des lettres manuscrites, ces partitions originales de Xenakis ou de signées ou de Thieu à lui. C'est, quand je les regarde, je suis presque en pleurs. Enfin, il y a un truc hyper fort. Et c'est le concert de Chausson, le mouvement lent, avec le quatuor parrainin Ferras et Barbizet. Là, c'est comme du blues. C'est sublime. La première version du quatuor de Debussy ou Ravel par le quatuor parrainin, alors c'est une très mauvaise édition, c'est Pacifique. Mmh. C'est disque Pacifique, donc le son n'est pas génial. Mais la version, c'était avec Serge Collot à l'alto. Oui. Mais cette version-là, c'est pour moi la plus belle version. C'est même s'il y a des petites imperfections et tout. Ensuite, je dirais Jean Wiener, la sonate de Wiener, par Monsieur Pénassaud je dis Monsieur Pénassaud comme si j'étais enfant avec le, je peux pas dire Pierre Pénassaud, enfin, c'est Monsieur Pénassaud, avec Jacqueline Robin, et c'est une très très jolie version d'une œuvre qui est pas souvent jouée et qui est assez belle, en fait. Et je dirais Nomo Safa de Xenakis. À l'époque, s'attaquer à ça, j'admire. J'ai jamais été aussi loin, moi. J'arrive dans cette classe petit, et pas une fois dans ma vie il m'est arrivé de me dire ouais, il faut que je travaille mon violoncelle. C'était comme une vie de peintre ou de moine qui fait des enluminures, des choses comme ça. Le matin, je me réveillais, je faisais. Mon problème, c'était plus pour avoir la même passion à l'école. J'aimais bien l'école, mais c'était pas le même degré d'investissement. Franchement.
Et c'est vraiment Pierre Pénassaud qui vous a donné cette passion. Je veux dire, Vincent Seguel, votre rapport à l'instrument même, est-ce qu'ensuite, quand vous avez eu l'instrument, vous avez aussi développé immédiatement un amour pour l'instrument, ou ce n'est qu'un vecteur, si je puis dire, et c'était la musique avant tout?
Ouais, je pense que c'était la musique, et je pense que... Enfin, je suis pas là à me dire, oui, violoncelle, c'est plus comme le film de Fellini, où chacun monte son emprovoi d'orchestre en disant, voilà, c'est l'instrument le plus extraordinaire, parce que ceci ou cela. Non, c'est pas vraiment pas ça. Je pourrais jouer du hautbois, du basson, enfin, j'aime tout. Enfin, c'est des outils. Alors, comme je suis un peu flemmard, sur ce côté-là, c'est-à-dire un peu monotache, on va dire.
Vous avez tout fait sur le violoncelle.
Voilà, beaucoup. Parce que pour éviter d'aller vers le piano, à l'époque, quand j'étais au CNSM, on me disait, ouais, il faut faire du piano complémentaire, et je regrette. Ça, Rostropovitch, il le disait, il faut être un très bon pianiste quand on a un musicien à cordes, et lui, il était. Il jouait incroyablement du piano, mais je jouais tout avec le violoncelle. Des Beatles, Sibelius, le concert pour violon, tout ce que je jouais, mes copains, j'essayais de le rejouer au violoncelle. Thank you.
Under My Thumb de et par Vincent Segal referme le premier épisode des Grands Entretiens avec le violoncelliste français. Réalisation Christine Amado, prise de son Christophe Papon, attaché de production Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.